Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'adversité et de stress. Bonne écoute! Aujourd'hui, au podcast, on est très content de recevoir Dr. Catherine Raymond, qui est chercheure postdoctorale du département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. On va parler d'adversité, mais aussi de stress. Puis on a déjà commencé à jaser, puis je suis déjà intéressée, j'ai déjà hâte de vous poser les questions. Dr. Raymond, bienvenue, merci d'être là.
Merci, merci de l'invitation.
Je suis très contente de parler de ce sujet-là avec toi parce que je me rends compte, juste en 4 secondes et quart, que je fais peu la différence entre être stressée, ouais, être anxieuse, avoir un état plus dépressif, si on veut. Comment tu pourrais décrire... Tiens, on va commencer avec le stress.
Ouais.
Comment
ouais,
tu pourrais décrire ça?
En fait, l'analogie très simple du stress, là, c'est le mammouth. OK? Donc, okay, la raison pour laquelle on aurait un système de stress aujourd'hui, les humains, c'est parce que dans le temps des hommes des cavernes, on avait besoin d'un système qui nous permettrait de combattre ou de fuir les mammouths. Puis devant un mammouth, tu as besoin d'une chose et c'est de l'énergie. Et donc, le système de stress...
Un peu de cardio. Un petit peu.
une petite affaire. Mais à part ça, ouais, pour venir avec ce cardio-là, il fallait de l'énergie. Et donc, le système de stress aujourd'hui, il n'y a aucune idée qu'on est en 2021 puis que des mammouths, il n'y en a plus. Il réagit encore exactement de la même façon qu'on ne se trouve pas de stationnement, qu'on ait peur vis-à-vis d'une entrevue d'emploi, uh-huh, qu'on vive une situation pour la première fois. Lui, il va se dire... Pas de parking égale mammouth. Okay. Et donc, je vais te donner de l'énergie au même titre que s'il y avait un mammouth devant toi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est stressé, on va sécréter ce qu'on appelle des hormones de stress. Et elles ont une fonction, nous donner de l'énergie. Mm-hmm. Et donc, pour ce faire, ça va nous donner une panoplie de signes biologiques qu'on ressent fréquemment quand on est stressé. Hein, le cœur qui bat la chamade, ouais, la respiration qui s'accélère.
Les mains moites, t'es chaud.
Ouais, les mains moites, ouais, pour mieux agripper les objets autour de nous pour pouvoir se défendre. Donc, tout ça, c'est des signes qui sont très primitifs. Tu sais, quand on est stressé, on a des frissons. Je sais pas si t'as déjà remarqué, ben oui, tu sais, t'as froid. C'est pour avoir l'air plus gros devant notre adversaire. Hein, les poils vont s'hérisser sur la peau, comme un chat. Okay? Donc, tout ce système-là, c'est un système qui est très primitif et qui fonctionnait très bien dans le temps des uh-huh mammouths. Puis aujourd'hui, ça va fonctionner exactement de la même façon. Et donc, souvent, quand les gens nous demandent « Ah, comment est-ce que je peux faire pour réguler mon stress? » Pour le gérer, comme ouais, on dit en langage
gérer
commun.
Son stress.
Gérer son stress, oui, c'est ça. Bien, la première chose, c'est de savoir qu'on est stressé. Hein. Puis pour savoir qu'on est stressé, on peut essayer de détecter ces fameux signes biologiques de stress, comme le cœur qui bat la chamade, etc. Et là, on peut se poser la question « Bien, qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans mon environnement? »
Qu'est-ce qui me fait problème? Pourquoi je suis pas bien, je suis pas à l'aise?
Exactement. Fait que le stress, c'est vraiment cette réponse biologique qu'on a face à un événement dans notre environnement ou dans notre tête. Hein, okay. Qu'on anticipe quelque chose à l'avance, etc. Si on anticipe une fois de temps en temps, c'est correct. Ça reste dans la nature du stress.
Okay.
Si on se met à anticiper plus souvent qu'autrement, là, on tombe dans ce qu'on appelle l'anxiété.
OK, okay. C'est parce que c'est ouais, ça, là, je, mettons, là, pas moi, une amie. Mettons une amie, on nommera pas son nom, ça pourrait que ce soit moi, qui peut-être à chaque fois s'imagine tout le temps des affaires, mais ouais, pas possible.
Des scénarios,
oui, catastrophes. Tout le temps. Là, tu essaies de régulariser ça, de faire comme, non, mais attends, là, ça fait pas de sens ce que tu es en train de penser là. Là, on est dans la grosse anxiété.
Ouais, le hamster qui tourne, là. Oui, exactement. Ça, c'est plus de l'anxiété. Bien entendu, il y a un continuum d'anxiété, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement maladaptatif.
OK.
Okay? Je te donne un exemple. On revient, mettons, là, au mammouth. Le mammouth, il fallait l'anticiper un petit peu. Ouais. Tu sais, si tu l'avais croisé entre la roche 2 puis 3, fallait que tu craignes un petit peu la roche 2 puis 3. Hein, parce que sinon, tu aurais tout le temps été pris au dépourvu par le mammouth. Et donc, notre cerveau est capable d'anticiper à l'avance les mammouths. Uh-huh. Ça aussi, c'est très adaptatif si ça arrive une fois de temps en temps et qu'on se corrige rapidement si on n'a plus de preuves que le mammouth est là. Hein, t'es passé entre la roche 2 puis 3, 4, 5 fois, il n'est pas là.
Il n'y en a pas.
Techniquement, il faut que tu arrêtes de l'anticiper. Okay? Ça, c'est un état anxieux, c'est-à-dire que c'est temporaire, un peu comme avoir mal au ventre la veille d'un examen.
Okay.
Tu as un état d'anxiété, mais ça se dissipe par la suite. Quelqu'un qui a un trait de personnalité anxieux, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus loin sur le continuum d'anxiété, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui anticipe les mammouths plus souvent qu'autrement.
Tout le temps.
Ouais, puis tant qu'il n'y a pas de détresse significative, okay, que ça altère pas le fonctionnement, ben on va parler d'un trait de personnalité anxieux.
Okay. Okay.
C'est à peu près 33% de la population qui a ce trait de personnalité-là, donc c'est très répandu.
OK. Okay.
Là, l'étape d'après.
Il y a une autre étape après, ouais, là.
Ouais. Il y en a une autre. Puis là, c'est quand on va tomber dans la psychopathologie anxieuse. Il y en a plusieurs. On peut parler d'anxiété généralisée, on peut parler de phobie, on peut parler, les troubles obsessifs compulsifs. Ouais. Donc, il y en a vraiment une panoplie de troubles anxieux qui, eux, vont engendrer une détresse significative. Mm-hmm. Et qui vont nuire au fonctionnement minimalement dans un milieu de notre vie. Ça peut être dans notre vie quotidienne, au travail, dans notre vie sociale, par exemple. Puis là, s'il y a détresse et que notre fonctionnement est altéré, mais on va plutôt parler de psychopathologie. Puis là, ben, les trucs dont on va discuter un petit peu plus tard pour mm-hmm. négocier le stress, certainement, on peut les appliquer, hein, même si on souffre d'anxiété généralisée, mais va falloir en parallèle à ça traiter la psychopathologie elle aussi. Okay? Que ce soit par le biais de consultations psychologiques, qui est fortement suggérée, ou par la prise de médication en parallèle à tout ça. Okay? Donc, vraiment, là, s'il y a un truc à se souvenir, c'est le stress, c'est important de le réguler au fur et à mesure qu'il se présente à nous, parce qu'une personne peut naître sans trouble anxieux et développer un trouble anxieux à l'âge adulte parce qu'elle a mal négocié son stress. Okay? Donc, le stress qui est vécu au quotidien peut évoluer en stress chronique qui, lui, va amener la présence de maladies comme l'anxiété, par exemple.
C'est sûr que je vais en parler à mon ami. C'est merveilleux parce que on va prendre ce podcast-là comme une thérapie en même temps. Je la trouve vraiment fabuleuse. On parlait du stress qu'on vit puis qu'on doit vivre avec, tous les jours. Est-ce que c'est toujours négatif? Ou il y a une façon qu'on peut le gérer? Tu fais comme, non, je vais le prendre puis ça va me pousser à faire plus, à accomplir davantage.
Non, c'est pas toujours négatif. Okay. Là, je te donne un exemple, les athlètes.
Ouais.
Okay, donc, ceux qui font du sport de façon compétitive, ça a été démontré qu'ils ont des niveaux de cortisol, la fameuse hormone de stress dont on discutait un petit peu plus tôt, qui sont très élevés. Pourtant, ils souffrent de moins de psychopathologies comme l'anxiété, la dépression que d'autres, okay? Parce que ce stress-là est vécu de façon positive. Mmh. C'est ce que les études démontrent, en ce sens où, oui, ils vont sentir leur cœur qui bat la chamade, ils vont avoir des frissons, ils vont avoir mal au ventre, par exemple, avant une compétition, mais souvent, les athlètes vont associer ces émotions-là, ces sentis biologiques-là, comme étant « Oh, ma performance, ça va être bonne. » Okay? Parce qu'ils canalisent cette énergie-là dans quelque chose qui est positif. C'est ressenti aussi auprès de plusieurs artistes avant de monter sur scène, le fameux track. On peut voir ce track-là de deux façons. Se dire « Oh mon Dieu, je vais tout oublier puis ça fonctionnera pas, puis etc. » Donc, le voir comme quelque chose de vraiment négatif ou utiliser cette énergie-là à bon escient. Okay? Et il y en a qui l'ont plus facile que d'autres, okay, avoir le stress comme étant positif. Il y a une espèce de prédisposition à tout ça. Est-ce qu'elle est génétique? Est-ce que c'est appris tôt dans le développement auprès de nos parents? Je sais pas. Okay, les études sont très émergentes à ce niveau-là. Mais on sait qu'il y a des enfants qui, dès le début de leur développement, ils ont 3 ans, puis le stress trouve ça cool. Là. Donc, tu sais, eux, ils ont mal au ventre avant d'aller jouer au parc. Ils sont comme, ah, mais je vais y aller quand même.
Fait que c'est vraiment... Est-ce que ce serait quelque chose d'inné?
Soit génétique ou bien ça peut être appris de tes parents.
Okay. Hein.
On apprend beaucoup en observant nos parents. Et donc, si nos parents, quand ils vivent une situation stressante, ils revirent ça de façon positive, bien, l'enfant va apprendre le stress, ça peut se vivre positivement. Okay, donc, et c'est peut-être une interaction de tout ça aussi, des gènes et de l'apprentissage. La bonne nouvelle, okay, c'est que même si on est quelqu'un qui a tendance à voir le stress comme étant négatif, ça se change.
Okay.
Okay, donc, on peut faire des apprentissages à ce niveau-là, que ce soit par la psychoéducation, par la thérapie, par la lecture, s'informer sur ce qu'est le stress, écouter le podcast en ce moment.
Okay,
donc, quand on comprend ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, quand on est stressé, c'est beaucoup moins paniquant. Okay? On s'est rendu compte dans les dernières années qu'il y a beaucoup de consultations à l'urgence psychiatrique, beaucoup plus qu'auparavant, pour des situations de stress. Okay? Donc, on dirait qu'on ne sait tellement pas ce qu'on ressent en situation de stress que ça peut être paniquant. C'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété. T'as mal au ventre, t'as mal au cœur, t'as des bouffées de chair.
Des fois, t'as même un étourdissement, puis là, tu
fais
quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ça.
Ben oui.
J'imagine que ça peut être stressant. Tu fais, OK, mais là, est-ce que je suis malade?
C'est quoi le problème?
Ben
oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des consultations à l'urgence psychiatrique pour des ruptures amoureuses chez les ados, pour des échecs scolaires, pour. Tu sais, puis on se dit, écoute, il y a un gros travail de psychoéducation à faire ici, puis d'informer. C'est quoi le stress? À quoi ça sert? Il y a une fonction derrière ça. Mmh. On en a besoin du système de stress. T'enlèves le système de stress, on est tous morts.
Oui, okay?
Donc, on en a besoin au quotidien, mais il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, comment le réguler. Hein, quand je ressens ces réponses-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour que ça parte rapidement si je trouve ça désagréable?
Et puis, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Catherine dit qu'il y a de plus en plus d'ados et tout ça qui arrivent à l'urgence. Puis est-ce que c'est parce que, étant donné qu'en 2021, on en parle plus du stress, de l'anxiété et tout ça, que là, on est capable de mettre plus des mots sur ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que tu penses que, je sais pas, moi, en 1940, 1950, tout le monde était comme « Oh! »
Ben, d'une part, je pense que t'amènes un bon point, c'est-à-dire que non seulement aujourd'hui on en parle plus, ce qui est une excellente chose,
ben
il ne faut pas moins le faire, non seulement on en parle plus, mais j'oserais même dire que l'anxiété c'est quelque chose qui est valorisé. Parce que les jeunes qui sont anxieux au secondaire, ben, ils ont des bonnes notes. Okay? Ah. Puis c'est ceux qui vont être capables de faire, plus je sors mes guillemets, du multitasking. Oui, ils vont faire du sport. Puis c'est eux qui ont pour ambition de rentrer en médecine, en droit, etc. Et bien souvent, ça vient avec ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. C'est-à-dire que ces jeunes-là vont aller rechercher beaucoup de gratification dans leurs notes, dans leur performance sportive, dans le nombre d'amis qu'ils ont, dans la façon dont ils s'habillent, etc. Et en tant qu'adulte, on valorise beaucoup ça auprès de nos enfants, auprès de nos élèves. Et donc, c'est une espèce de cycle sans fin, là.
Okay, j'imagine donc, envers nous-mêmes aussi, quelqu'un qui a une petite famille, puis là, c'est le travail, puis là, si, puis là,
vraiment, pensons à nos médias sociaux, là, combien d'influenceurs, influenceuses est-ce qu'on voit qui disent « Ah, mais tu sais, moi, je souffre d'anxiété, etc. » Je trouve ça merveilleux qu'on puisse en parler. Mais est-ce qu'on voit autant d'influenceurs qui vont dire « Moi, je suis schizophrène, puis je vis avec telle ou telle problématique au quotidien. » On valorise pas autant ça qu'on va valoriser l'anxiété, tu sais, parce que on a l'impression que ça nous amène à être plus performants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute chose dans la vie, trop, c'est comme passé, là.
Oui.
Si on est trop anxieux, on n'est pas capable de réfléchir comme il faut, et donc, on va devenir moins performant éventuellement, ou même tout simplement casser puis être malade, alité, en traitement, là. Fait que, tu sais, trop, c'est comme passé.
Trop, c'est comme dans tout, finalement. Je sais que le stress peut venir, Catherine, de plein de sources différentes. Pour tout le monde, c'est différent. C'est souvent subjectif aussi pour la personne qui vit ce stress-là, ce serait, selon toi, comment on ferait pour identifier une composante de notre vie qui peut être un stresseur? Comment on pourrait mettre le doigt rapidement dessus sans être perdu dans « Ah, oh, mais là, c'est-tu mon chum? C'est-tu ma job? C'est-tu... »
Oui, puis la colère, ce que je ressens,
c'est quoi l'affaire?
Ce qu'on sait, c'est qu'il existe deux types de stresseurs. Okay? Quand on parlait du mammouth tantôt, là, ça, c'est une vraie menace à notre survie, c'est ce qu'on appelle un stress absolu.
Okay?
Un stress absolu, tout le monde réagit à ça. OK, il y a personne qui va dire il y a un feu qui est déclenché en ce moment, moi ça va.
C'est le correct.
Feu, ça, ouais,
c'est
le feu,
chill.
Ça me dérange pas. Ouais, c'est moi les armes à feu,
moi c'est pas problématique,
mais ça me dérange pas. Un stress absolu, ça active tout le monde. Le système biologique de stress initialement a été mis sur pied pour ça.
OK.
Okay? La plupart du temps, ce qui nous active au quotidien, ce n'est pas, bien entendu, un stress absolu, ça va être ce qu'on appelle un stress relatif. Okay? C'est-à-dire que c'est n'importe quelle situation qu'on va interpréter comme étant stressante malgré le fait que notre vie ne soit pas en danger.
OK. Mettons un courriel. Tu sais, t'as un courriel de ton boss.
Mettons.
Puis la ponctuation n'est pas adéquate. Puis tu dis, ah, il n'a pas mis de point d'exclamation. Je vais perdre ma job.
Exact. Oui, tout à fait. Non, un courriel qu'on a l'impression qu'il est menaçant, une entrevue d'emploi, tantôt on disait ne pas trouver de stationnement, penser qu'on a perdu son téléphone cellulaire, avoir une première date, écoute, alouette. OK, donc, on va y aller simple. N'importe quoi peut être vu comme étant stressant. Heureusement, la recherche a été capable de regrouper ça en 4 facteurs. Okay? Fait qu'on sait qu'il y a 4 types de caractéristiques qui, à chaque fois qu'elles sont incluses dans une situation en particulier, ça va nous activer. Elles ne sont pas obligées d'être les 4 présentes, bien entendu. Une seule est suffisante, mais plus il y a de caractéristiques incluses dans une situation, plus on va sécréter d'hormones de stress. La première, c'est ce qu'on appelle le contrôle faible. Okay? Fait qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, on va sécréter des hormones de stress comme être pris dans le trafic, par exemple. Okay? Donc, on veut arriver à quelque part, mais là, on est coincé dans le trafic, on n'a pas le contrôle, on va sécréter des hormones de stress. On se fait laisser par notre chum blonde. On voit passer une photo sur les médias sociaux, tous nos amis sont sortis.
Personne
t'a invité. Okay? T'as pas le contrôle sur cette situation-là, puis on va voir qu'il y a d'autres caractéristiques incluses dans ces exemples-là aussi, mais dans tous ces contextes-là, on n'a pas le contrôle. ça peut nous amener à sécréter des hormones de stress, d'où la raison pour laquelle la COVID a pu être si stressante pour beaucoup d'entre nous, hein, le couvre-feu, fermer les commerces, etc. On n'a pas de contrôle sur cette situation-là. Deuxième caractéristique, c'est l'imprévisibilité. Okay? C'est-à-dire que soit une situation arrive du jour au lendemain puis on ne l'a pas vu venir, mm-hmm. okay? Tu te réveilles un matin, il y a un pied d'eau dans ton sous-sol. Mm-hmm. Okay? Donc, c'est imprévisible. Ou bien tu as une situation entre les mains, mais tu ne peux pas en prévoir l'issue. Okay, c'est imprévisible dans le sens où tu sais pas où ça s'en va, cette situation-là. Okay, ça peut être, je sais pas moi, t'as appliqué sur un poste.
C'est fait.
C'est fait, puis là, t'attends la réponse. Okay. Exactement. Troisième caractéristique, la nouveauté. Puis celle-là, je la trouve intéressante parce que la nouveauté, même si c'est positif, ça va être associé à un stress important. Okay. Avec un mariage, une promotion au travail, justement, l'arrivée d'un enfant... déménager et dans une plus belle, plus grande maison. Tout ça, ça va être associé à beaucoup de stress parce que le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « Ouais, je le sais que toi, tu me dis que ça a l'air bien beau puis bien le fun, mais moi, j'ai jamais fait face à cette situation-là. » Fait que je sais pas s'il va pas y avoir une horde de mammouths dans ce contexte-là.
Mais ça, on était bien. Ouais, mais... Pourquoi tu...
oui,
t'as décidé de...
C'est quoi l'affaire?
Pourquoi, là?
Ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a des gens qui vont y être plus sensibles que d'autres.
Hein. OK.
Hein, fait qu'il y a des gens... Où... Puis même, tu peux avoir deux enfants, puis les deux vont agir exactement de façon différente. Là. Un va être super sensible à la nouveauté, puis l'autre, ça va être le contrôle. Okay? Donc, on a vraiment des sensibilités qui sont peut-être génétiques. On ne sait pas. Quatrième et dernière caractéristique, l'ego menacé. Okay? Donc, tantôt, tu parlais d'un courriel de ponctuation.
Oui, oui.
Donc, à chaque fois que notre valeur personnelle ou notre estime est remise en doute, est évaluée, on va sécréter des hormones de stress. Okay? Fait que ça peut être, je ne sais pas, moi, tu mets une photo sur les médias sociaux puis ça n'a pas le nombre de mentions que j'aime auxquelles tu seras attendu, une entrevue. Ça peut être de t'exposer pour la première fois à un nouvel emploi puis là, tu te dis, mon Dieu, tout le monde va me juger.
Tout le monde me regarde drôle.
Oui, tout le monde me regarde drôle, mais les présentations orales, etc. Donc, toutes ces situations-là où notre ego est mis à rude épreuve. Et donc, on a créé un acronyme pour pouvoir mieux se souvenir de ces quatre caractéristiques-là. Est-ce que le stress, c'est du ciné? Pour le contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et égo menacé. Et donc, quand on essaye là, de savoir ce qui nous stresse au quotidien, là, des fois, c'est difficile parce qu'on se dit « Ah, ben là, aujourd'hui, j'ai été stressée parce que j'étais dans le trafic, j'ai été stressée parce que j'ai reçu un courriel que j'ai pas aimé, etc. » Qu'est-ce qui regroupe ces situations-là? T'sais, comment est-ce que je peux faire pour mieux détecter ces situations-là dans l'avenir? Ben, peut-être que tu vas te rendre compte que ce qui te stresse, c'est l'imprévisibilité. T'sais, c'est pas nécessairement le trafic, c'est pas la ponctuation dans le courriel, c'est le fait que ce soit arrivé de façon imprévue. Puis toi, ben c'est ça ta plus grande sensibilité. Ben oui, tout à fait. Puis un coup que tu connais ta sensibilité au stress, ben c'est beaucoup plus facile de déterminer les situations qui sont potentiellement problématiques.
Est-ce que quelqu'un, justement, qui va être plus sensible, comme tu dis, à l'imprévisibilité, va nécessairement être aussi aux trois autres facteurs ou ensuite quelqu'un va en avoir un sur deux, deux sur trois?
Tout à fait. En général, on est plus sensible à une ou deux des caractéristiques, mais ça se peut que ce soit les quatre, là, vraiment. Puis il y a aussi une chose qui est importante de mentionner, c'est que cette sensibilité-là, elle peut changer à travers le temps. Fait que ça se peut qu'en ce moment, tu sois super sensible à la nouveauté puis que dans un an, ce soit l'imprévisibilité. Puis la seule façon de le découvrir, c'est de réfléchir. Fait que c'est de s'asseoir puis de penser. de s'asseoir puis de réfléchir, d'écrire. Ça peut être de se faire un petit tableau puis d'essayer de voir, bon, ça, c'est tous les exemples de stresseurs que j'ai vécu dans la dernière semaine. Puis on coche les différentes caractéristiques du snake. Bon, celle-ci, elle était incontrôlable et elle était nouvelle. Celle-ci, elle était nouvelle et elle menaçait mon ego. Puis là, à la fin, mais ça te permet de faire une espèce de moyenne, tu sais. Ah, mais en général, dans les situations auxquelles je fais face, il y a souvent de l'imprévisibilité. Et donc, ça doit être la caractéristique à laquelle je suis la plus sensible.
Est-ce que, parce que mon doux, là, c'est sûrement pour donner des trucs à mon amie, Catherine, mais j'imagine que de tenir, comme tu dis, des notes ou un petit journal, mettons, avant de te coucher, parce que tu as passé ta journée, tu sais qu'est-ce qui t'a stressé, de faire comme, OK, comment je me suis sentie aujourd'hui? C'est ça les situations qui m'ont fait sentir angoissée, stressée. Puis ensuite, ça va être plus facile de mettre le doigt dessus, puis tout à travailler par la suite.
Deux choses. Une, le petit calepin, c'est une idée fantastique. Okay? Donc, vraiment, là, d'écrire puis d'essayer de décortiquer, c'est une super bonne idée. Ce qui est une moins bonne idée, c'est de faire ça avant de se coucher. Parce que de ramener tout ça à la surface juste avant d'aller te coucher, ça peut poser de l'insomnie.
C'est pour ça que mon amie dort pas.
Elle dort pas.
C'est pour ça, Catherine.
Tu sais, tantôt, on parlait du signe biologique de stress. Il y a beaucoup de signes psychologiques aussi. Parce que une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est que les hormones de stress, elles remontent au cerveau. Donc, non seulement elles vont avoir des effets sur le rythme cardiaque, la respiration, tu sais, qui sont des effets biologiques, c'est-à-dire en dessous du cou. Il y a aussi des effets au-dessus du cou, au niveau du cerveau. Et donc, ça va changer la façon dont on voit le monde, dont on réfléchit, dont on se régule, ça va augmenter la colère, tu sais, ça va avoir plusieurs effets psychologiques et l'effet le plus présent chez la majorité des gens, c'est l'insomnie, mm-hmm. OK? Moi, je suis absolument pas quelqu'un qui est sujette à l'insomnie, puis au début de la pandémie, quand il y avait les restrictions au tout début, je pense que j'ai pas dormi pendant 2 semaines, j'étais comme « Ah ben,
c'est ça.
Je suis stressée. Okay. Okay. » Tu sais, donc, ça peut poser une insomnie pour une raison qui est très évolutive et adaptative, c'est-à-dire qu'il y a notre cerveau qui se dit « Hey, t'es entouré de mammouth, pas le temps de dormir. »
Non, tu peux pas dormir, là.
Mais non, tu peux pas dormir. Il faut que tu sois à l'affût. Il peut se passer quelque chose de dangereux. Et donc, on est très, très, très vigilant à notre environnement dans ce temps-là, ce qui fait en sorte que ça peut poser de l'insomnie. Et donc, si on est dans une période où on est super stressé puis qu'on a de la misère à dormir, bien, réfléchir à ces stresseurs, on est mieux de faire ça autour de l'heure du souper, okay. Autour de l'heure du lunch, en revenant à la maison le soir, mais de se laisser une espèce de petit moment là, avant le sommeil où on fait une activité qui est plus neutre comme lire, prendre un bain, écouter un podcast, écouter une émission de télé. Tu sais, là, je sais que les écrans, c'est pas l'idéal non plus avant le sommeil, mais mettons tu as un choix à faire, écran versus réfléchir à mes stresseurs, l'écran, je prendrais l'écran. Moi, je prendrais l'écran.
Moi, je prendrais le podcast présentement. Après ça, si on arrive à un moment donné à une étape où on pense que c'est un épuisement, disons. Ouais. Tu dis, OK, là, la job, c'est trop. Ça a passé le stress, ça a passé l'angoisse. Là, c'est négatif au bout. Toi, la différence entre épuisement professionnel, dépression, au niveau du stress, ce serait quoi la limite à faire entre les deux?
C'est super compliqué, mais c'est une bonne question. En général, là, la raison pour laquelle c'est si compliqué de distinguer anxiété, dépression, épuisement professionnel, c'est que souvent, ils viennent en gang. Okay. Il y a beaucoup ce qu'on appelle la comorbidité au niveau de ces troubles-là, c'est-à-dire que pour chaque personne qui va recevoir un diagnostic de dépression, il y en a le 2/3 qui vont aussi souffrir d'anxiété. Okay. Donc, souvent, c'est des pathologies qui sont très entremêlées. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'en premier lieu, l'anxiété va émerger parce que, bon, ça fait longtemps qu'on vit du stress chronique, ça remonte au cerveau constamment, les hormones de stress, on se souviendra. À un certain moment, ce que le cerveau, il se dit, c'est « Mais tu vis dans un monde dangereux. » Okay? Donc, tu fais face à tellement de stresseurs au quotidien. Moi, ce que je vais faire, ton cerveau là, qui te parle, il dit « Moi, je vais t'aider. » Okay, je vais faire en sorte que tu vas devenir un hyper détecteur de menaces. C'est-à-dire que même si le mammouth est tout petit caché au fond du champ, tu vas le détecter super rapidement. Okay? Okay. Donc, nous, on appelle ça une dérégulation du système de stress. Le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « non, je m'adapte ». Okay? Donc, en premier lieu, souvent, ce qui arrive, c'est l'anxiété. Donc, la pression est dans le tapis. Quelques mois, quelques années plus tard, peut se produire ce qu'on appelle la dépression. OK, donc là, il y a vraiment une déplétion des réserves d'énergie. Je suis plus capable.
Même pour quelque chose qui est arrivé v'là X temps,
v'là 20 ans, v'là 10 ans, v'là 3 mois. Ça dépend des gens. Okay. Ça dépend de notre résistance au stress, ça dépend de notre bagage génétique, ça dépend de ce à quoi on a été exposé auparavant. Tu sais, les gens qui ont fait face à de l'adversité durant l'enfance, par exemple, oui, il y en a chez qui ça va favoriser le développement d'anxiété puis de dépression. Il y en a d'autres que ça va rendre super résilient. Hein, parce que là, ils ont vécu autre chose dans le passé. Ils ont découvert des outils pour se prémunir contre ces situations-là. Puis quand ils font face à d'autres événements adverses à l'âge adulte, ben ils ont des outils, tu sais, pour y faire face. Fait que ça dépend d'un paquet de choses. Maintenant, la distinction principale entre dépression puis épuisement professionnel au niveau biologique, là, ça va être la quantité d'hormones de stress que tu sécrètes. Okay? OK. Donc, les gens qui souffrent de dépression ont beaucoup, 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 beaucoup d'hormones de stress toute la journée durant. Les gens qui souffrent d'épuisement professionnel en ont très peu, voire presque pas du tout. Okay? Ce qui fait en sorte que c'est très difficile de se mobiliser à sortir du lit le matin, à aller porter des applications pour travailler à quelque part, à avoir des interactions sociales, etc. Okay? Ça, c'est vraiment la distinction au niveau biologique. Une autre différence importante qu'il y a à faire entre dépression puis épuisement professionnel, souvent, ça va être la cause de cet état-là qui est ressenti. Auparavant, pour avoir un épuisement professionnel, il fallait que tu travailles dans un milieu où tu fais un don de toi. Okay? Donc, c'était réservé au personnel médical. Okay. Fait que, tu pouvais faire un épuisement professionnel quand tu étais médecin, quand tu étais infirmière, par exemple.
Mais les autres...
Non, c'est ça, c'était une dépression. Aujourd'hui, on a vraiment élargi ça en ce sens où tu peux faire un épuisement professionnel parce que tu as un conjoint malade.
Okay. Et tu dois t'occuper
de qui tu fais un don de toi dans un autre milieu que ta sphère professionnelle, puis ça peut mener à un épuisement professionnel. Puis tu peux faire un épuisement professionnel parce que t'es au bac, puis t'étudies 50 heures semaine, puis t'es plus capable. Okay? Donc, mais les symptômes vont être très similaires au quotidien. C'est-à-dire qu'on manque d'énergie, on mange moins, la libido va diminuer grandement, etc.
Si, bon, il y a quelqu'un qui justement nous écoute présentement, fait comme, oh, OK, mais là, je me reconnais, épuisement professionnel et ou dépression, ce serait pour toi, quoi, le meilleur truc? On part de où? Ce serait quoi le step numéro un pour faire comme, OK, là, je vais me prendre en main puis je vais aller mieux, je veux aller mieux. Mais des fois, c'est un peu... ça peut faire peur, je pense, pour quelqu'un qui fait comme, je sais pas où commencer. Puis de voir, comme demander de l'aide comme étant un signe de force et non pas de faiblesse. Ces gens-là doivent partir de où? Ce serait quoi l'étape numéro un que tu pourrais conseiller?
Ça dépend des gens. Ouais. Mais moi, l'étape numéro un que je dirais de façon la plus universelle, c'est d'en parler à un proche en qui on a confiance. Okay. OK, donc, puis on peut avoir une super bonne chum avec qui on a beaucoup de plaisir, puis ça fait les meilleurs 5 à 7, puis c'est super, c'est peut-être pas la personne de confiance en qui t'as besoin. Dans ce type de situation-là, t'as besoin d'un filet de sécurité.
Oui.
OK, puis cette personne-là, ça se peut que ce soit ta collègue de travail à qui tu t'es confié quelquefois, puis ça s'est super bien passé. OK, donc, je pense que c'est de réfléchir à qui est cette personne de confiance, puis à ne pas hésiter à demander un service. OK, donc, est-ce que ça te dérangerait de m'aider à écrire un courriel à mon patron?
Oui.
Pour lui dire que je m'en vais chercher de l'aide, ça se peut que j'ai besoin d'un arrêt, etc. OK, donc, de demander de l'aide à quelqu'un qui a des ressources cognitives pour t'aider à ce moment précis. Ensuite de ça, ça va être d'aller chercher de l'aide, bien entendu. OK, fait que ce soit au niveau d'un médecin de famille, psychologue, psychoéducateur, travailleur social, infirmière, infirmière praticienne, Alouette, il y a beaucoup de professionnels qui sont formés pour se faire. Il y a des lignes d'écoute aussi qui existent à ce niveau-là. Fait que ça va être vraiment d'aller chercher une aide qui est adéquate à ce moment-là et d'écouter les recommandations, si je peux me permettre. Donc, si on nous dit, écoute, là, t'es en train de toucher le fond du baril, moi, ce que je ferais, c'est une thérapie cognitivo-comportementale couplée avec de la médication.
OK.
Okay? Ben, peut-être d'être ouvert, puis tu sais, je suis pas en train de dire médicamentez-vous contre votre gré,
non,
mais de s'informer puis d'aller voir, bon, mais c'est quoi les effets de cette médication-là? Est-ce que ça peut m'aider, oui ou non? Et encore une fois, ça peut être d'aller demander de l'aide pour s'informer. OK? Donc, de demander, je sais pas moi, à ton amie infirmière qui connaît ça, tu sais, si elle peut pas t'aider un petit peu à démystifier tout ça, puis à mieux comprendre c'est quoi ces molécules-là, que sont les antidépresseurs, qu'est-ce que ça peut faire. Et de se rappeler aussi qu'on a un pouvoir aussi en tant que consommateur de médication, c'est-à-dire de poser la question à notre médecin, bon, en ce moment, tu me proposes telle molécule, est-ce que je peux voir les effets secondaires? Puis c'est quoi les autres alternatives qu'il y a? Parce que des molécules, il y en a beaucoup, là.
Ben oui.
Fait que c'est pas parce que, par exemple, t'en as essayé une, qui a vraiment pas fait, qu'il n'y en a pas d'autres.
C'est ça.
Ouais, ou qu'il n'y a pas d'autres doses. OK? Donc, on a un pouvoir de décision à ce niveau-là et d'information, tu sais, de poser les bonnes questions.
Mais je trouve ça vraiment... ça m'interpelle parce qu'il y a quelques années, j'ai dû prendre une pause. Et de dire, je vais prendre une pause, je dois le faire pour moi physiquement, mentalement.
Ben oui.
Et la personne à qui j'en avais parlé m'avait dit, mais non, tu peux pas faire ça.
Ouais,
tu vas perdre ta job.
Ouais.
Tu sais, tu peux pas abandonner
ton monde.
Ce n'était
pas la bonne
personne. Voilà, fait que c'est l'exemple parfait. Ouais. Fait que si quelqu'un nous écoute, puis il dit « Ah non, mais je peux pas dire... » Non, non,
c'est vraiment pas ça. Puis tu sais, le corps envoie beaucoup de signaux.
Ouais.
Tu sais, tantôt, je parlais, bon, le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui s'accélère. Quand t'es face au mammouth, ça ressemble à ça, du stress. Mais le stress, en anglais, on dit « it gets under the skin ». Tu sais, ça finit par vraiment devenir une seconde peau, finalement.
Absolument.
Là, tu sais. Puis il y a des effets qui peuvent se cumuler à long terme, ce qu'on appelle du stress chronique, puis qui fait en sorte que, je vous jure, que ça, développer une dépression, là, ça ressemble pas à... Ben hier, j'avais le cœur qui battait la chamade, puis ça allait super bien. Puis là, je me suis réveillée un matin, puis mon Dieu, ben, je clouais au lit. Puis non, non, il y a des avertissements qui sont donnés. Puis il y a une espèce de phase sandwich, OK, entre le stress qui est aigu ici maintenant, le mammouth, puis la dépression, qui est ce qu'on appelle la phase de surmenage, OK, qui est... Le cerveau, il dit... Hey, je suis fatiguée, là. OK? Donc, ce à quoi ça ressemble, c'est tu rentres à la maison le soir, tu ressens de la lassitude, énormément de fatigue. Il y a une augmentation des comportements de consommation qui est importante à ce niveau-là.
Le classique verre de vin.
Ben, le verre de vin est plus fréquent. Tu sais, pas besoin de caler ta bouteille de gin pour être qu'on dise que c'est une augmentation des comportements de consommation. Ça peut être juste que tu bois plus souvent ou un verre de plus qu'à l'habitude, mais constamment. Puis il y a tout le temps des gens qui me disent « Ah, moi, je consomme pas, fait que, je suis à l'abri de ça. » Ça peut être n'importe quel comportement de dépendance, entre guillemets, qui fait du bien. Jouer à des jeux vidéo, magasiner en ligne.
Netflix.
Netflix. Ça peut être du gambling. Okay. Ça peut être n'importe quel comportement qui fait du bien ici et maintenant. Parce que le cerveau va activer ces comportements-là parce que lui, il se dit « Hey, moi, j'ai été sous tension toute la journée. Je veux un anane. Je veux une pause. Je veux bien aller là, tout de suite. » Fait qu'il va nous amener à avoir tous les comportements qui amènent ce qu'on appelle de la dopamine. Okay? Okay. C'est ce fameux neurotransmetteur qui est sécrété dans le cerveau. Puis la dopamine, ça nous fait bien sentir là, tout de suite. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on va prendre notre petit verre de vin. C'est parce que ça nous fait relâcher de la dopamine. On se sent bien automatiquement. Bon, ça fonctionne à court terme. À long terme, on ne règle pas la problématique. Non. Puis deux, plus on consomme d'alcool, moins on régule bien nos émotions. Mm-hmm. Okay? Parce que ça va venir jouer sur tous les neurotransmetteurs qui sont importants pour l'humeur, pour négocier le stress, etc. Et donc, c'est vraiment une solution qui est très, très temporaire, la consommation d'alcool. Mais tout ça pour dire que si on fait une petite rétrospective de nos dernières semaines, puis qu'on se dit « ben je suis tout le temps fatiguée, j'ai jamais le goût de sortir, je bois beaucoup plus qu'avant, je me sens plus irritable, je dors moins bien », mais ça se peut que tu sois dans cette fameuse étape sandwich. Okay. Qui, ton corps t'avertit que « hé, attention, parce que je suis à veille de craquer sous la pression ». Stress, c'est un terme qui est emprunté à la métallurgie. C'est la quantité de pression que tu peux mettre sur un métal avant qu'il ne craque.
Okay.
Donc, le système de stress, super bénéfique à court terme, mais à long terme, ça peut faire en sorte qu'on craque sous la pression. Oui, exactement.
Puis de le... Mon doux, est-ce que c'est... De le voir d'avance, oui, tu regardes ces signes-là, mais est-ce que ça peut être difficile à un moment donné, Catherine, je sais pas, de dire « Non, mais là, il faut faire la différence entre c'est juste un petit verre de vin ou c'est juste un petit... » Et l'étape après où c'est comme too much, c'est comme il faut vraiment que tu fasses comme une rétrospective.
C'est important d'être indulgent envers soi-même. Mais tout à fait, parce que là, je veux dire, tu sais, faut pas se dire, mon Dieu, l'alcool, c'est le démon. je suis constamment en situation de stress. Tu sais, il faut faire la part des choses. Je pense que c'est important de se dire, bon, ça fait combien de temps que ça dure?
Okay.
Est-ce que je prends mon petit verre de plus à tous les jours depuis 6 mois? Si oui, ça se peut que ce soit trop. Même 4 semaines, ça se peut que ce soit trop.
Parce que la pandémie, on s'entend que j'ai l'impression dans mon entourage, le petit verre de vin a été plus facile.
Les statistiques le démontrent, il y a eu une très grande consommation d'alcool auprès des jeunes adultes, là, ça a été démontré. Puis une des raisons était le stress, hein, tu sais, on savait pas trop où ça s'en allait, cette situation-là, donc on venait calmer ces espèces d'états-là par la consommation d'alcool. Donc, je pense que c'est de se poser la question depuis combien de temps ça dure, puis est-ce que c'est couplé à d'autres symptômes? Mm-hmm. Est-ce que c'est juste la consommation ou bien, en effet, je me sens plus irritable, et j'ai plus de colère spontanée qu'à l'habitude, je dors moins bien, je ressens plus de tristesse, et surtout, est-ce que je fais autre chose pour me gérer? Est-ce que ça se limite à la consommation ou est-ce que tu fais du sport? Oui. Est-ce que tu consultes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu passes du temps de qualité avec les gens que t'aimes? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Fait que tu sais, c'est de se dire, ben là, oui, il y a la consommation, tu sais, que j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu à court terme, mais est-ce que c'est couplé avec des techniques qui vont fonctionner, elles, à long terme?
Donc, à ce moment-là, quand on met le bobo, on met le doigt là-dessus, c'est là qu'il faut faire le switch de « OK, non, il faut que je calme un peu ça, puis je vais aller voir quelqu'un, je vais demander de l'aide, puis je vais consulter. »
Tout à fait.
En quoi le stress, Catherine, peut être associé aux idées suicidaires? Là, c'est sûr que ça peut sembler super gros comme terme, mais j'imagine que pour des gens qui vont être moins bien capables de le gérer, de le comprendre, puis de mettre des mots sur leur stress, leur anxiété, ça peut mener à des idées suicidaires.
Mais écoute, c'est une question qui devrait être si simple à répondre. Ça devrait être comme, la littérature scientifique démontre qu'il y a une association parfaite entre le stress et les idées suicidaires. C'est les hypothèses qui existaient initialement quand on a commencé à étudier l'association entre le stress et les idées suicidaires.
Okay.
Puis bon, ce qui a été démontré, en gros, c'est que plus un jeune adulte réagit fortement à une situation stressante, c'est-à-dire que nous, en laboratoire, c'est ce qu'on fait. On amène les gens au labo, on les stresse, puis là, on vient mesurer les hormones de stress dans la salive, puis ça nous permet de voir l'ampleur de la réaction d'un individu au stress, ce qu'on appelle la réactivité au stress. Puis en général, plus les gens réagissent au stress, plus ils vont avoir de la difficulté à réguler leurs émotions, plus ils ont de chances de souffrir de dépression, etc. Fait que ça a été mesuré à maintes reprises, l'association entre la réactivité au stress puis les idées suicidaires. Puis généralement, ce qui était démontré auparavant, c'est qu'il y avait une association positive, c'est-à-dire que plus t'es réactif au stress, plus il y a de chances que t'aies des idées suicidaires.
OK.
Mais il y a des exceptions, puis c'est pas chez tout le monde, puis il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire est-ce que tu es vulnérable à ça? C'est pas tout le monde qui est vulnérable à présenter des idées suicidaires à ce niveau-là. OK, donc quels sont les facteurs de prédisposition? C'est quoi ton environnement en ce moment? C'est quoi le support? Tu sais, il y a plein de variables qui peuvent influencer cette association-là. Il y a des nouvelles études qui démontrent que chez les adultes qui sont un peu plus vieux, mm-hmm. c'est-à-dire il y a la catégorie des jeunes adultes en recherche qui est habituellement les 18-35.
Okay.
Puis
18-35, je suis juste sur la ligne.
C'est
Catherine,
ça, moi aussi, je suis là. On a arrêté tout.
Fait que là, tu me dis que la prochaine étape, je suis rendue une vieille adulte, c'est tout ça. Aïe, aïe.
Chez les plus vieux adultes, c'est encore la catégorie adulte, là, qui est en les 40 ans et plus, fait qu'il y a comme une espèce de trou, hein, les
35 ans, 40 ans, oui. Zone, OK,
c'est bon. L'association, elle est inverse. C'est-à-dire que moins on réagit au stress, plus on est apathique face au stress, plus il y a de chances qu'on ait des idées suicidaires. Fait qu'il n'y a pas de réponse parfaite, c'est ça que ça veut dire. Okay? Donc, c'est pas parce qu'on réagit fortement aux situations stressantes que nécessairement on va présenter des idées suicidaires. Il semblerait qu'il y a des facteurs qui viennent jouer là-dedans, notamment les vulnérabilités génétiques,
mm-hmm.
Le support social, les techniques qu'on a pour réguler ce stress-là. Hein, parce que qui dit « je réponds fortement aux situations stressantes » ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des stress. Hein, parce qu'il faut se rappeler que cette réponse de stress-là est utile, elle nous donne de l'énergie. Donc, ça dépend beaucoup de comment on perçoit cette réponse de stress-là. Est-ce qu'on est capable d'apprivoiser ce stress-là ou au contraire, on veut s'en débarrasser dès qu'on le ressent, hein, si on est très sensible à l'anxiété. Et donc, tout ça pour dire, dans la littérature scientifique, on voit des associations anti-stress et idées suicidaires, mais ces associations-là ne sont pas claires et définies.
OK, okay. Ça reste encore un peu flou.
Exactement. Okay. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent finalement changer ces associations-là, qui viennent les influencer.
Okay.
Fait que c'est un portrait qui est très complexe à dresser.
Il y a une question qui me pop en tête. Je ne veux pas te peinturer dans un coin. Catherine, j'ai l'impression que nous, encore en tant que jeunes adultes, je vais parler pour notre génération. Avec les réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram, tout le beau qu'on peut voir passer semaine après semaine, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une corrélation entre l'arrivée, l'avènement puis la popularité des réseaux sociaux puis l'augmentation de stress chez nous, les jeunes adultes?
Ouais, en fait, ben tu sais, je peux répondre à demi en ce sens où il y a des études qui sont menées là-dessus, là, puis notamment à notre labo, on a démontré que chez les ados, plus tu as d'amis sur les médias sociaux, plus tu es stressé. OK?
Oh, fait que, ouais.
Puis là, tu sais, on peut pas parler d'une association de causalité, c'est-à-dire qu'on peut pas dire les amis sur les médias sociaux causent du stress, parce que ça se pourrait que ce soit l'inverse aussi. Hein? Plus tu es stressé au quotidien, plus tu vas aller chercher un grand réseau sur les médias sociaux. Mais on sait qu'il y a une association. Donc, je pense que oui, les médias sociaux peuvent nous amener beaucoup à nous comparer puis à créer des espèces d'idéaux. OK, donc, ah, waouh, elle a de l'air de ça quand elle se réveille le matin, tu sais, elle a de l'air donc bien contente avec son petit café puis sa famille de 6 enfants, tu sais, moi, j'ai pas de l'air de ça en me levant le matin, donc je dois pas bien faire ça, tu sais, ma vie n'a pas atteint ce stade-là que je voudrais avoir, OK, donc ça peut créer des espèces d'idéaux qui sont irréalistes parce que elle avait pas de l'air de ça en se réveillant le matin,
non,
là.
Non, c'est sûr que non, c'est sûr que son café est froid, c'est sûr, c'est 6 enfants, c'est sûr,
il est bien froid, puis il est fatigué, et donc, ça peut créer des idéaux qui viennent menacer notre égo. Hein? On se rappellera que c'est une des caractéristiques du ciné. On n'a pas de contrôle là-dessus non plus. Donc, ça peut venir chercher plusieurs caractéristiques du ciné chez les gens qui sont particulièrement sensibles à ça. Mais je pense qu'il faut se rappeler aussi que sur les médias sociaux, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont présentes. Okay? Mm-hmm. Donc, ça augmente l'accessibilité à plusieurs ressources en santé mentale. Ça augmente l'accessibilité aussi à rejoindre nos amis en situation de détresse. Donc, ça peut amener un certain réseau. Fait que je pense que l'idée n'est pas de dire « Ah, bon, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? » Mais plutôt, quelle est l'ampleur de l'utilisation que j'en fais? C'est-à-dire, est-ce que ça a remplacé toutes les activités, toutes les hobbies dans ma vie? T'sais, est-ce que je lis encore? Est-ce que je sors encore? Est-ce que quand j'utilise les médias sociaux, après, comment je me sens?
Mm-hmm.
Est-ce qu'automatiquement, ça me déprime et ça me rend anxieux ou anxieuse? Et si oui, ben peut-être qu'il faut que je limite cette utilisation-là. Puis ça, ça a été démontré dans le cadre de la COVID, hein?
Mais ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, pour une génération, mais tu sais, pas moi, là, tu sais, moi, que c'est comme MIRC puis MSN Messenger, là, ça a pas, c'est une autre génération.
Aussi, voilà.
Mais pour des jeunes qui sont nés là-dedans dans Instagram, peut-être, est-ce que c'est plus difficile de mettre des mots sur... Ils savent pas, eux autres, ils sont nés là-dedans Instagram puis Facebook.
Le téléphone est collé sur la main.
Ben, c'est ça, fait que peut-être qu'ils savent pas que ça leur fait sentir cette espèce de feeling négatif-là.
Puis il y a aussi le fait que, tu sais, quand tous tes amis sont toujours sur leur téléphone, ben t'apprends par observation qu'être sur ton téléphone, c'est la norme, tu sais. Fait que c'est important de se poser ces questions-là. Puis je pense que c'est important aussi de se dire, ben c'est pas normal qu'une activité me fasse systématiquement sentir pas bien.
C'est clair.
Tu sais, c'est la même chose pour une relation interpersonnelle. Si avec ton chum ou ta blonde, 80% du temps, t'es pas bien, mais non, c'est pas normal. Mm-hmm. Okay, il y a quelque chose à changer, mais ça devrait être la même réflexion par rapport à notre relation avec les médias sociaux. T'sais, c'est pas censé nous faire sentir tout le temps tout croche. Okay? Donc, c'est vraiment de faire la part des choses. Puis d'où l'importance, si tu le sais que tu files pas, que t'es plus stressé, que t'es plus déprimé, mais ça peut être de se dire, OK, ben aujourd'hui, je vais limiter le temps que je passe sur mon téléphone.
En terminant, Catherine, si t'as un conseil à partager peut-être à ceux qui nous écoutent présentement, y a-t-il des ressources, comme on parlait justement d'Internet et tout ça, que les gens pourraient peut-être juste aller voir un recap, si tu nous as parlé des différentes composantes du stress et tout ça.
Ah, vraiment? Ben oui, vraiment. On a un site web au Centre d'études sur le stress humain qui est stresshumain.ca. Okay. Avec stress humain au singulier.ca. Puis c'est une source inimaginable de vulgarisation scientifique. Il y a plein de ressources en ligne qui sont données vers d'autres sites web, vers des livres. Puis il y a beaucoup d'explications qui sont données directement sur le site. C'est quoi le ciné? Comment est-ce qu'on peut faire pour négocier ce stress-là? Puis il y a aussi un tableau qu'on peut imprimer ou télécharger sur son ordinateur, son téléphone, peu importe, pour décortiquer le ciné qui est disponible gratuitement sur cette plateforme-là. Puis il y a aussi des vidéos qui expliquent c'est quoi le stress, comment on peut faire pour le négocier. Fait que oui, je pense que c'est une super bonne ressource à ce niveau-là. Puis sinon, je pense que c'est important quand on s'informe sur le stress de vraiment vérifier les sources qu'on consulte parce que c'est pas vrai que le stress, ça se négocie avec du patchouli puis puis de la méditation puis que c'est juste ça.
C'est juste ça. C'est ça. Si ça vous fait du bien, oui, là, il y a pas de problème avec ça. Dit, mais il y a d'autres outils.
Exactement. Je pense que c'est un point important à mentionner.
Catherine, ça a été vraiment, vraiment constructif, intéressant. Je te remercie. On va aller voir ça, puis je vais partager ces infos-là avec mon ami. Merci beaucoup.
Moi, je te remercie.
Merci, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!